I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Profession cordiste, les gestionnaires premiers de cordée, les intérimaires premiers de corvée, seconde partie.
Voilà, lâchez les cordes, on lâche le matériel.
Cité des Arts de la Rue, Marseille, 10 juillet 2018.
Allez Charles, c'est bon? Allez, 3, 2, 1, top chrono!
On se trouve au 8e championnat de France des cordistes, organisé par le syndicat français des entreprises du travail en hauteur. C'est surtout la rencontre annuelle de toute la profession, fournisseurs de matériel, entreprises, agences d'intérim, organismes de prévention à la sécurité. Et là, on se trouve avec Gauthier. Du moins, l'appellera-t-on Gauthier.
C'est quoi la ZAP?
C'est l'antichute sur la corde rouge. C'est en cas de problème, c'est ce qui te sauve la vie en fait.
Gauthier, la vingtaine, est cordiste intérimaire. C'est sa première participation au championnat de France des cordistes.
Moi j'ai pris en un an et demi, j'ai pris 6 kilos de muscle. Je faisais 60 kilos, là j'en fais presque 70. Et sans forcer, juste en travaillant. Donc pour tous les cordistes, je pense qu'il n'y en aura aucun qui te dira que c'est dangereux. On se sent vraiment pas en danger. Et une fois que tu connais les risques et que tu les prends en considération, ça se passe toujours bien. C'est le seul métier où je suis content parce que je sais que tous les jours, je vais trouver au moins un truc où je vais m'amuser. Et c'est pour le taf et en plus, je gagne du temps. Donc tout va bien. Puis quand tu fais des trucs risqués, en général, bah, tu vas sauter. Donc tu vas gagner du temps de déplacement. Enfin, c'est pas risqué, mais c'est de l'adrénaline et en même temps, c'est bien pour le boulot. Donc c'est tout gagnant. Quoi. T'as le droit de faire, hein, t'as le droit de sauter dans le vide. Tant que t'as tes deux cordes et que t'es amarré, ils te disent. Hein.
Comment t'en es venu à ce métier?
C'est une bonne
Comme
question.
Beaucoup de cordistes, attiré par le côté spéléo, escalade, Gauthier a choisi ce métier pour être en contact avec la nature et non pas pour être enfermé en milieu confiné.
Espace confiné, ouais. Une fois, j'ai nettoyé une cage vide d'ordure à la con, là, de 1 mètre sur 1 mètre.
Ça devait pas être très marrant.
C'était magique. À respirer de la poussière, tout ça. J'ai eu un avant-goût de l'industrie, j'ai pas envie. Moi, il me faut du soleil, il me faut de l'espace. Il n'y a qu'en spéléo où j'aime bien le confiner en fait. Mais parce que la spéléo, c'est les entrailles de la terre. Quoi.
T'en as fait de la spéléo?
Ouais, j'en ai fait, j'ai commencé il y a quelques temps. Là. Tu visites les entrailles.
À Monaco, il l'a eu, le soleil et l'espace pour travailler.
Tout un tas de parcours du combattant à faire, c'est sympa. C'est vraiment cool. Hein.
Dans une boîte qui embauchait une vingtaine de cordistes.
Moi je suis arrivé là-bas, tous les jours t'en as trois qui viennent pas le matin, ils préviennent pas, ils en ont plein le cul, ils se cassent. T'as le patron qui est en train de courir partout et d'appeler tout le monde, de trouver des bonhommes tout le temps. Enfin, c'est un espèce de gros bordel là-bas. T'as un droit de retrait. Mais tu utilises ton droit de retrait, tu trouves une autre boîte. Quoi. Je l'ai utilisé une fois, c'est dans un chantier où il faisait 80 degrés. J'ai tenu 3 semaines, j'ai fait un malaise. J'ai dit stop, quoi. J'arrête. C'était au stade de Monaco, il fallait revisser des tôles dans le faux plafond en plein été, en plein mois de juillet. Donc il y avait 20 000 vis à changer. Alors à pisser, donc c'était un travail de 6 mois, un chantier de 6 mois et en plein été. Je taffais normalement et à un moment je suis remonté et j'ai senti une baisse de toute l'énergie et je suis tombé par terre, enfin tombé, je me suis assis et je suis resté 20 minutes assis, j'arrivais pas à me lever. C'était, j'avais du mal à respirer. Et...
Mais du coup, t'es redescendu au sol à ce moment-là.
J'étais au sol, heureusement.
Souvent, dans les journaux, écrits ou télévisés, on en parle comme d'un métier
un
grisant.
Un métier grisant. Un métier hors du commun.
Avec des sensations fortes garanties.
Et vous faites un métier dangereux. Et ce métier est étouffé, il n'est pas connu.
Souvent, on dit qu'ils travaillent
à la manière des alpinistes, parfois des acrobates.
Des acrobates des chantiers capables de réparer, de peindre, nettoyer, sans toucher terre.
On a commencé à creuser 10 minutes, et d'un coup, le sol s'est dérobé sous nos pieds jusqu'à former un trou à peu près d'un mètre de rayon qui s'est automatiquement refermé sur chaque victime.
Souvent, on les présente comme autant de chanceux,
qui voient la ville autrement.
Ce sont donc des gens vraiment heureux sur ce corps.
Je suis heureux, je suis content.
Et à qui on redemande, vous sentez heureux?
Ouais, oui, vraiment.
Non, on est des travailleurs. Tout ne doit pas reposer sur nos épaules. Nous, ce qu'il nous faut, il nous faut de la formation, il nous faut du matériel, mais il nous faut un besoin vital de l'organisation et de la supervision aussi. Notre métier, on est trop livré à nous-mêmes.
Souvent, on les montre en haut des tours. Sur des barrages, des éoliennes, au sommet de la tour Eiffel ou des plus hautes falaises, ou dans un des plus célèbres hôtels parisiens.
35 étages, 137 mètres d'altitude.
D'où l'on voit le côté Trocadéro.
Ah, c'est chouette.
Aujourd'hui, il est mort. Mort loin de chez lui. À l'issue d'une pénible journée d'un travail ingrat, dans une semi-obscurité, dans l'épaisse poussière d'un silo en ferraille chauffé à blanc.
Souvent, on dit qu'ils sont payés entre 2 000 et 3 000 euros par mois.
Sans prime de risque.
Ils travaillaient pour 10,50 euros de l'heure, monsieur Bohan. Pour 10,50 euros de l'heure. Ils étaient intérimaires, à peine formés.
On dit qu'il y a des risques, mais ils sont maîtrisés.
Il y a peu de têtes brûlées, en fait, dans ce métier-là. Parce que, justement, on pense à la mort tous les jours, donc on ne prend pas de risques, quoi.
Je ne sais pas s'il y a d'autres métiers ou d'autres activités professionnelles où on peut être exposé à autant de risques mortels en même temps. En silo, on est exposé, en plus des risques de chute de hauteur, à des risques éventuellement d'explosion, d'ensevelissement, de chute d'objets, d'exposition à des gaz toxiques.
Mais malgré le risque de blessure, la profession fait rêver. Ses adeptes sont des passionnés.
On vit chaque saison, en fait, et pour moi, c'est la base du métier, c'est vraiment pouvoir être dehors toute l'année, pouvoir apprécier tout ça. C'est magique, on a une chance incroyable.
Cet aspect du métier existe bien sûr. Il ne s'agit pas de le remettre en cause. Mais de mettre en lumière un aspect beaucoup moins connu. Beaucoup moins visible.
Et alors est-ce que tu connais, est-ce que ça te dit quelque chose, Quentin Zahraoui Brua?
Non.
Alors en fait, c'est un cordiste qui a eu un accident l'année dernière dans un silo à grains sorti de Bazancourt et qui est mort.
Ouais, ça me dit quelque chose. Ça... J'ai entendu parler d'une histoire dans un silo comme ça. Moi, je crois que c'est une erreur humaine. J'étais resté là-dessus.
Semble-t-il, il se serait désencordé. Mais...
Bah, même si c'est désencordé, s'il est en train de se faire ensevelir, c'est normal. Hein.
Tu veux dire pour...
Bah si il a pied et qu'il touche le sucre, t'essayes de monter, hein, tu t'enlèves la corde et tu réfléchis pas. Hein.
Oui, après la corde elle est attachée en haut a priori.
Oui, oui, non mais elle te gêne, hein. Si tu te fais ensevelir, elle va te gêner la corde. Hein.
Ouais.
Moi je pense que déjà les gros industriels ils ont des gros problèmes. On a parlé récemment, mais tout ce qui est agroalimentaire, et d'ailleurs je pense que c'était dans l'agroalimentaire, c'est tellement tourné vers la rentabilité qu'il n'y a plus aucun côté humain et ça ne m'étonne même pas que ce genre de truc arrive, c'est la rentabilité, il faut que ça tourne. Le chantier, ils ont il a été chiffré, ils ont des délais à respecter. Et le mec, s'il respecte pas ses délais, bah c'est, je sais pas, c'est son boss ou enfin, je sais pas qui est pas content, mais en tout cas le mec, il faut respecter les délais, donc il te l'annonce. Et si le mec a mal chiffré son chantier et toi t'essaies de rattraper sa connerie, bah c'est là que tu vas te mettre en danger, quoi. C'est ça le problème.
Dans la première partie de cette enquête, nous nous sommes penchés sur Quentin Zahraoui Brua, cordiste intérimaire de 21 ans, mort enseveli sous 370 tonnes de résidus de céréales dans un silo d'une trentaine de mètres de hauteur appartenant à la distillerie Christanov.
Mon père, un jeune de 21 ans.
C'était le 21 juin 2017.
Et qui est mort dans des conditions terribles, et qui est mort au boulot. Tu te dis que c'est pas dû au hasard, que son travail, c'est jamais dû au hasard.
Et ce que nous n'avions pas précisé, c'est que cet accident n'est pas le premier du genre, qui se déroule sur le site agro-industriel de Bazancourt. Le 3 juin 2015, Jérémy Deveau, plombier, procède à un dépannage d'urgence dans un malaxeur de Cristanol quand une explosion de poussière se produit. Un technicien, non informé de l'opération, aurait ouvert une trappe libérant des particules fines entrées en contact avec les flammes de son chalumeau. Brûlé au troisième degré, le trentenaire sera plongé en coma artificiel et subira de larges greffes de peau. 3 semaines d'hôpital, des mois pour redevenir autonome. Aucun procès n'a été annoncé.
Et ce que j'ai appris là pour Quentin, apparemment, c'est pareil, c'est encore une histoire de trappe.
Plus grave encore. En mars 2012, 2 autres cordistes perdaient la vie dans un silo appartenant à Cristal Union, qui produit le sucre d'Adi, l'actionnaire majoritaire de Cristanol.
Donc oui, je pense qu'il y a un problème humain auprès de chez Cristanol ou Cristal Union.
Les lieux sont les mêmes, la société est la même, et surtout...
Les conditions à chaque fois sont les mêmes. À chaque fois, ils sont dans les silos, à chaque fois, il y a une trappe qui s'ouvre. Donc, on entend juste ça 3 fois, sur 3 accidents, au même endroit.
Alors là, c'est simple, hein, quand il y a eu l'accident, c'était la première mission, premier jour, dans les 10 premières minutes de travail. C'est une société d'intérim qui m'a appelé, pareil, parce qu'il cherchait du personnel. Moi, je devais être en vacances pendant cette période.
Frédéric Soulier.
Il m'avait proposé de travailler à Reims. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas, je vais décaler mes vacances et j'ai accepté la mission.
Le 13 mars 2012, il fait partie des 4 cordistes qui descendront dans le silo numéro 12 du site Cristal Union à Bazancourt et des 2 seuls qui en remonteront.
C'était faire du décrétage de silo. C'est-à-dire, vous savez, les silos de sucre, du sucre qui reste dedans, et ça colle un peu aux parois et ça fait des crêtes. Et on doit gratter les parois pour faire tomber le sucre vers le fond du silo. Le niveau n'est pas plat dans un silo, ça part toujours en pente. On ne peut pas craser devant nous, sinon on risque d'être enseveli. Donc on va au point le plus haut, pour gratter le long des parois, tout ce qui est de crête, tout ça, pour remettre à niveau. Et après, quand c'est à niveau, eux, ils aspirent par le bas. C'est-à-dire, ils ouvrent des trappes, ou une vis sans fin, et le produit est évacué. Ouais, j'avais 6-7 ans d'expérience, déjà.
Sur les 4, 3 sont intérimaires. Intérimaires, mais expérimentés. Très expérimentés, à comparer à l'équipe de Quentin Zahraoui Brua, 5 ans plus tard, composée de cordistes qui avaient au maximum 1 an d'expérience.
J'en avais fait plusieurs, des silos, oui. J'en avais fait avec plusieurs sortes de matières, ça peut être du colza, du sucre. J'en ai fait plusieurs, des silos. Pas aussi grand, cela dit. C'est très grand, celui-là.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier?
Ouais, il était immense. Bah, en tout, en hauteur, je crois qu'il faisait 57 mètres de haut. Et quand il y était, il y avait quand même 10 mètres de sucre qui restait dans le silo. Donc, on est descendu déjà par des trous d'hommes. On était à 4, on est descendu à 40 mètres sur corde, ce qui est déjà une grande distance. L'intérieur, le rayon, il devait faire à peu près 37 mètres aussi. Donc, vous imaginez, on peut mettre un immeuble dans le silo. Hein. C'est gigantissime.
En fait, le moins expérimenté de l'équipe, c'était la seule personne embauchée.
Il était avec nous dans le silo en bas. Il a été formé, il a eu une formation de 2 ou 3 jours en interne pour savoir monter et descendre sur corde. Mais c'était même pas un cordiste. Quoi. Il y avait déjà un manque, je pense, un manquement de formation aussi par rapport à leur personnel à eux. Le chef d'équipe était en haut, il était pas avec nous. On était 3 intérimaires et un embauché qui était formé de façon light. Donc, ouais, il y avait déjà un manquement aussi là. On est descendu 40 mètres et il n'y avait aucun accès au fond.
Il y a bien 2 portes d'accès, percées dans les parois pour permettre de sortir à tout moment, mais elles se trouvent à 1 mètre et 7 mètres du sol, soit sous la couche de sucre qui les recouvre totalement.
J'avais eu une appréhension avant l'accident. C'est sûr, je me suis dit qu'on est descendu dans le silo. Je me suis dit, mais si quelqu'un fait un malaise ou quoi que ce soit, comment on fait pour le sortir?
La dernière discussion qu'on a eue la veille au soir, c'était sur la sécurité dans les silos et la sécurité chez Carrefour Service. Voilà.
Fanny Maquin.
Bah lui, il était quand même inquiet parce que de réputation, il y avait des soucis de sécurité chez Carrefour Service. Et il était quand même conscient que les interventions dans les silos, c'était quelque chose de dangereux. Alors, il n'est pas allé la fleur au fusil en disant que tout a été simple. C'est des interventions très spécifiques dans le milieu des cordistes qui demandent des mesures de sécurité encore plus importantes que d'habitude, j'allais dire.
Le compagnon de Fanny, Vincent Dequin, avait 33 ans ce 13 mars 2012. Son collègue, Arthur Bertoli, 23 ans. Tout comme Frédéric Soulier, les deux hommes effectuaient leur première journée de travail à Bazancourt. Si Vincent Dequin se méfiait des interventions en silo, et particulièrement avec Carrefour Service, ce n'était pas par hasard. En mai 2010, un accident eut lieu dans la société de nettoyage rémoise, rachetée en juillet 2013 par le géant des services aux entreprises, Atalian. Embauché depuis deux jours, l'homme était chargé de nettoyer un silo des grands moulins de Reims. En décapant l'un d'eux, il avait fait une chute de 15 mètres, ce qui lui avait valu des fractures du fémur, des deux jambes et des côtes. Sa plainte contre son employeur sera classée sans suite.
Ben nous, on se connaissait depuis le lycée. On était ensemble depuis 2000. Donc ça faisait quasiment 12 ans au moment de l'accident. Lui, c'est pareil, il était grimpeur. À la base, il faisait de l'escalade. Et après, il a fait de la spéléo.
Toutes les personnes qui l'ont connu décrivent Vincent Dequin comme un grimpeur né, président de l'antenne marnaise de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, titulaire de l'équivalent d'un certificat de qualification professionnelle de niveau 2, baroudeur sur toutes sortes de chantiers à travers l'Europe.
Bravo sur les centrales nucléaires, sur des voiliers. Je crois que c'était peut-être deux fois à Gênes et puis une fois, c'était au Portugal. Donc là, c'était 5 semaines non-stop.
Mais s'il voulait travailler plus près de chez lui?
Ça faisait quand même un certain nombre d'années qu'il faisait ça, donc il cherchait plus à faire des chantiers dans la région.
Il n'avait pas le choix que d'accepter ce qu'on lui proposait comme n'importe quel intérimaire, même les silos de Bazancourt.
Déjà gratter du sucre, et une fois parce que le sucre, il est collé à l'intérieur du silo, c'est presque comme du caramel, en fait, hein. C'est dur, donc ils avaient des pioches et des pelles, hein. Ils n'allaient pas au râteau. Et donc, ils devaient déjà gratter pour décoller une certaine quantité de sucre. Et après, ils devaient remonter, donc soit carrément tout en haut, suivant l'heure, soit remonter un petit peu pour plus être en contact avec du sucre. Et seulement à ce moment-là, les trappes, elles devaient être ouvertes pour permettre de sortir du silo le sucre qui avait été gratté, pour pouvoir ensuite regratter sur le niveau d'en dessous et ainsi de suite, quoi. Et les trappes, donc, on ne sait pas pour quelle raison, ont été ouvertes alors qu'ils étaient en train de gratter, et sans qu'ils soient au courant. Sachant que, voilà, n'importe quel cordiste, même débutant, sait que s'il y a des trappes ouvertes, ils doivent être en tension sur la corde et pas avoir les pieds sur le sucre ou l'autre matière, ça dépend dans quel silo ils sont. Et ils sont surtout censés être prévenus, parce que sinon ils risquent l'accident, comme ce qui s'est passé, quoi.
Et comme la matière, elle partait en pente, c'est que quand on arrivait, dès qu'on avait les pieds au sol, il y avait de la matière au-dessus de nous. Donc, pour creuser cette fameuse matière, on a dû libérer un peu de tension sur corde, en restant encordé, hein, mais en libérant cette tension pour pouvoir marcher sur le sucre, pouvoir le gratter. Mais sauf que quand ils ont tiré la matière, donc il y a quelqu'un qui a ouvert une trappe, qui nous a aspiré. Le problème, c'est qu'avant de reprendre la tension, c'est une corde qui est semi-statique, qui a à peu près 4% d'allongement, mais sur 40 mètres, eh ben, on a été tiré de moins de 2 mètres. C'est-à-dire, même en étant encordé, ben, on peut descendre dans un trou 2 mètres plus bas.
Dans le silo voisin, 5 ans plus tard, les trappes de vidange, par où la matière s'évacue dans le fond des silos, se sont rouvertes et le piège s'est refermé de la même façon sur Quentin Zaraoui-Brua. Lui n'était pas encordé. Mais qu'importe, si les trappes s'ouvrent en pleine opération de nettoyage et qu'aucun moyen d'évacuation d'urgence n'a été mis en place, le cordiste pris dans la matière, encordé ou pas, diplômé ou pas, expérimenté ou pas, ne pourrait donc échapper à la fin tragique qui l'attend.
Pour Quentin, apparemment, c'est pareil, c'est encore une histoire de trappe. Donc oui, je pense qu'il y a un problème humain auprès de chez Cristal Nol ou Cristal Union. Je ne comprends pas pourquoi ils ouvrent les trappes. Ils ne devraient pas avoir accès aux trappes quand un cordiste est dedans. Donc sur cordiste, les trappes doivent être fermées, cadenassées, consignées.
D'ailleurs, l'inspection du travail de l'époque notera dans son rapport que le plan de prévention n'était pas adapté au lieu ni à l'action réelle, qu'il y avait une absence de communication et de coordination.
Pas de toki, pas de moyen de communication, peut-être la personne n'a pas été informée, un petit chef qui l'a stressé, vas-y, charge le silo au numéro machin, la personne qui s'est trompée, je sais pas ce qui s'est passé. Forcément, c'est une erreur humaine, j'espère, c'est encore pire, c'est peut-être une personne qui a voulu ouvrir, pourquoi, je sais pas. Moi, je sais que pour moi, quelqu'un en trappe. Après, dans quelles circonstances, j'en sais rien.
Le chef d'équipe de Carrare Service, quand il a vu que la trappe n'était pas dégagée, il aurait dû dire, vous descendez pas, on revoit notre plan de prévention, notre système de sécurité, notre système d'évacuation, et puis on réintervient quand c'est possible.
Pas de technique d'évacuation en cas de danger. C'est-à-dire, en cas de danger, il faut qu'on puisse secourir une personne rapidement. Et là, comment vous voulez faire à 40 mètres plus bas, dans un trou d'homme, pour secourir une personne? Comment vous faites? Et pas de treillevac, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc oui, il y avait un manquement de sécurité. Hein. Bon, ça.
Il y a un ami cordiste qui m'a appelé vers 15h30. Pour me dire qu'il y avait eu un accident dans le silo là où Vincent travaillait. C'était son premier jour et donc c'était la première matinée de travail. Je pense que c'était leur première descente dans le silo.
Oui, nous sommes descendus, on a commencé à creuser et on a commencé à creuser 10 minutes. Et d'un coup, le sol s'est dérobé sous nos pieds jusqu'à former un trou à peu près d'un mètre de rayon qui s'est automatiquement refermé sur chaque victime.
Moi, j'ai juste demandé à quelle heure avait eu lieu l'accident. Il m'a dit qu'il pensait que c'était vers midi et demi. Et j'ai demandé s'il était enseveli complètement. Il m'a dit oui. Donc j'ai tout de suite compris qu'il y avait quand même très très peu de chances qu'il se retrouve vivant. Sachant que le sucre, ça exerce une énorme pression dès qu'on est enseveli et que voilà, l'asphyxie est quasiment systématique.
Mes cordes étaient prises dans le flot de sucre, ça me tirait vers le bas. On avait un outillage, on avait des pelles, pioches qu'on avait accrochées sur nous pour justement pas les perdre. Mais quand le sol il s'est dérobé sous nos pieds, on a tout lâché et tous les outils ont été emportés dans le flot de sucre, donc ça nous tirait vers le bas.
Bah, surtout Arthur a été
enseveli. Arthur a été enseveli tout de suite.
Et Vincent il était enseveli jusqu'au cou.
Vincent a essayé de le secourir, il y avait la moitié du corps qui était pris, le sucre est monté très vite.
Un peu plus longtemps enseveli jusqu'au cou, il a eu le temps de dire justement à Fred qui commençait à être enseveli de couper sa corne.
Et moi j'étais en croix comme ça dedans et j'ai réussi, c'est même Vincent qui m'a dit coupe ta corde, t'es pas pris dedans. Et on a toujours un couteau sur nous. Et j'ai coupé toutes les ficelles, l'outillage et la corde que j'avais sur moi et je me suis raccroché sur une autre corde qui était à côté. Ah oui, j'ai pris dedans. Enfin, pas physiquement, mais toutes mes cordes. C'est pour ça que j'ai réussi à sortir. Si j'aurais eu la jambe dedans ou les deux jambes, j'aurais pas pu sortir. Quoi. On a vu qu'on pouvait plus rien faire, que le sucre avait entièrement recouvert la tête de Vincent. Il y a le chef d'équipe qui est descendu après, et on a crié, fermez les trappes, mais ils n'ont pas entendu, ça résonnait tellement. Un silo de 40 mètres, le temps qu'il ferme les trappes, puis c'est passé je sais pas combien de temps. Après, il est descendu, on a essayé de creuser au-dessus de la tête de Vincent en vain. Et puis on est remonté sur corde, après les pompiers sont venus, ils nous ont sortis du trou, une fois qu'on on a approché du trou d'homme, parce que les pompiers étaient arrivés. M'ont amené à l'hôpital et voilà, je savais rien, j'étais choqué dans le sens où je me rendais pas compte vraiment, pour moi c'était pas possible. Je les avais vus mourir, mais pour moi, dans ma tête, ils n'étaient pas morts. Je n'arrivais pas à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre, ça m'a mis un certain temps. On n'est pas préparé à ce genre de choses. Oui, à l'hôpital, ouais. Ça met un certain temps.
Alors la direction de Cristal Union, j'ai jamais eu aucun contact avec eux. Et la direction de Carrare Service, je les ai eus au téléphone peut-être le surlendemain ou deux jours après l'accident. J'ai su de manière officieuse par les médias vers 19h qu'ils avaient retrouvé les corps des deux cordistes qui étaient portés disparus, qu'ils étaient décédés. Officieusement, par ma sœur qui a vu sur Internet. Quoi. Donc, je suis un tout petit peu énervée contre ça. Surtout quand vous allez à la gendarmerie deux jours après et qu'on vous dit « Ah ben, vous savez, madame, on peut pas prévenir tout le monde. » Enfin, moi, j'étais quand même sa compagne. Ça faisait 12 ans quasiment qu'on était ensemble. Ils ont prévenu les parents, donc ils ont pas jugé nécessaire de me prévenir. Gaëlle, tu remontes ? Tu dis bonjour, chérie ?
Après l'accident, la police judiciaire avait entendu les principaux témoins, responsables et employés de Carrare, de Cristal Union, et notamment la responsable du silo qui aurait ouvert la trappe de vidange. Puis, plus rien. Ce n'est qu'en novembre 2017, soit quelque temps après le deuxième accident mortel, que l'affaire est relancée. La juge d'instruction prononce une mise en examen à l'encontre d'un responsable de Cristal Union et d'un responsable de Carrare Service pour blessures et homicides involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. L'affaire devrait être renvoyée devant le tribunal correctionnel de Reims. Un premier procès pourrait enfin avoir lieu début 2019. Près de 7 ans se seraient alors écoulés depuis la mort d'Arthur Bertoli et de Vincent Dequin.
Il aura 3 ans au mois d'avril.
Entre-temps, Fanny a essayé de reconstruire sa vie.
Rassemblement. Amis cordistes, soyez prudents et à tous, profitez malgré tout de la vie qui reste belle. Profitez malgré
Quentin
tout
était
de la
plein
vie,
de vie
qui reste belle.
Et d'envie de vivre. D'envie de vivre. Posé, enjoué, gentil, enjoué, attachant, gentil, volontaire, courageux, volontaire. Les mots me manquent.
Courageux.
Vraiment,
les mots me
manquent. C'était un bon gamin. C'était un bon gamin.
Arthur était aussi jeune que Quentin au moment du drame.
Si jeune que Quentin.
Il travaillait depuis un an et demi en tant que cordiste. Il adorait son travail, il avait vraiment l'amour de la corde, il était épanoui.
Il était épanoui.
Il avait l'avenir devant lui, mais cette mission a viré au cauchemar et lui a enlevé la vie.
Profitez malgré tout de la vie.
Aujourd'hui, il est mort. Mort loin de chez
il
lui.
Il avait l'avenir devant
lui. À l'issue d'une pénible journée d'un travail ingrat. Mort loin de chez lui. Dans une semi-obscurité. Dans l'épaisse poussière d'un silo en ferraille chauffé à blanc. Cependant que dehors, le soleil brillait.
Je m'appelle Marion.
Parking de Cristanol.
J'étais la compagne d'Arthur.
Bazancourt.
Décédé en mars 2012 aux côtés de Vincent.
16 septembre 2017.
Ces deux cordistes ne sont pas décédés par manque de compétences ou d'expérience en milieu confiné. Ils ont été prisonniers dans un lieu où la seule issue a été la mort. Peut-on laisser des familles sans réponse après la perte d'un être cher ? Comment peut-on se reconstruire et essayer de reprendre le cours de la vie ? Quand aura lieu ce foutu procès ? Nous sommes forcés de constater que la justice n'est pas la même pour tous. Pendant ces années d'attente, le géant agroalimentaire continue le massacre en toute impunité. Il faut dire stop et protéger la vie des ouvriers. J'ai essayé d'agir à mon petit niveau en mettant en place une pétition pour essayer de sensibiliser le procureur et l'inspection du travail. Il faut qu'ils sachent que nous ne sommes pas dupes et que chacun doit prendre ses responsabilités. Ces cordistes ne sont pas décédés pour rien et j'irai jusqu'au bout des choses.
Madame Brua, j'ai bien reçu votre mail m'informant du souhait de la famille et des proches de M. Quentin Zaraoui Brua de se rassembler sur le parking de Cristanol afin de lui rendre un ultime hommage suite à son décès lors d'une intervention de la société ETH dans un des silos du site.
Bien, moi je suis maman de cordiste. Le drame de Quentin m'a vraiment touchée.
Afin d'assurer la pleine sécurité de ce rassemblement et de maintenir la sécurité du site, en concertation avec les autorités chargées d'assurer la sécurité publique.
Dorénavant, j'ai vraiment peur pour mon fils quand il va travailler.
Nous vous remercions par avance de nous transmettre la liste des personnes attendues, ainsi que l'heure de la fin de cet hommage.
Ça ne devrait pas arriver de décéder sur son lieu de travail, ça ne devrait pas exister, ça. Ça devrait pas arriver.
Je vous remercie par ailleurs de m'avoir adressé un second mail me transmettant les consignes que vous prévoyez de mettre à la disposition de chacun des participants afin de les engager à adopter un comportement digne, respectueux et non violent.
Je dirais effectivement à tous les cordistes, soyez prudents, quand vous ne devez pas descendre, ne descendez pas.
Ces consignes, toutefois, mentionnent que le rassemblement du 16 septembre interviendra en hommage à Arthur, Vincent et Quentin. S'agit-il, dans ces conditions, d'un hommage rendu à Quentin par ses proches? Ou s'agit-il d'une manifestation d'une autre nature?
Pensez à votre vie avant de votre travail, pensez à votre vie.
Je vous prie de recevoir, Madame Brua, l'expression de ma profonde considération. Michel Mangion, directeur de Cristanol. Yo, Pink Daddy, viens par ici mon petit chou. Pink Daddy va te donner du goût. Je suis l'objet de ton plaisir.
Sucre Daddy, et le monde est plus rose.
Et enfin, dernier qualifié, Baptiste Guillermic, West Acro.
Retour à Marseille. Cité des Arts de la Rue. 18 mai 2018.
Je vous redonne le programme de l'après-midi, donc à 17h, la finale par équipe. Et enfin vers 18h, 18h30, la grande finale.
Le SFETH, syndicat français des entreprises de travaux en hauteur, principal organisateur des championnats de France cordistes, a adapté la compétition à la profession, qui repose pour moitié sur le travail temporaire. Un classement a été prévu exprès pour les boîtes d'intérim. Selon un recensement du SFETH datant de 2016, sur 8625 cordistes en France, 4200 sont intérimaires. Un chiffre qui a bondi de 53% entre 2009 et 2016, contre 51% pour les titulaires. Cordiste, une profession précaire pour les uns, rentable pour les autres, le chiffre d'affaires des 726 entreprises spécialisées en travaux sur cordes réunies, 1,5 milliard d'euros en 2016, a connu une évolution de 260% sur la même période et de 142% pour les 28 entreprises de travail temporaire répertoriées.
Ok, allez, évacuation, urgence du chantier. Il y a une conduite de gaz qui va exploser.
C'est une réunion annuelle pour tous les acteurs majeurs de la profession et dans ce cadre-là...
Pierre Potier.
On doit être là.
Directeur général de cet intérim.
Nous, on est là en tant que partenaire des entreprises qui font des travaux d'accès difficiles, puisqu'on est un acteur majeur dans la mise à disposition de personnel.
À cette heure-ci, il ne sait pas encore que c'est sa société qui va remporter la première place du classement intérim.
On doit faire à peu près travailler 700 personnes. Le SFETH essaye un peu de mettre en place effectivement une charte de bonnes pratiques visant deux choses, la sécurité du personnel délégué et des rapports pérennes. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on travaille point par point afin à terme d'accéder à des pratiques qui satisfassent les deux parties, tant les entreprises de travail temporaire que les clients, que les entreprises utilisatrices, puisqu'on a besoin les uns des autres.
Même si cette convention des bonnes pratiques n'a pas de portée contraignante, elle a le mérite d'engager sur l'honneur les 6 boîtes d'intérim signataires, notamment à s'assurer que le chantier ne soit pas effectué par 100% de personnel intérimaire ou qu'il y a un minima un cordiste titulaire du CQP2 par chantier. Des points qui ont fait défaut à Bazancourt le jour de l'accident de Quentin. Cela tombe bien, la société qui l'employait, Cordien Intérim, fait partie des signataires.
Et on se voit cet après-midi justement pour lire le texte, donc voir si cette charte de bonne pratique convient à toutes les parties.
Selon un cordiste bien informé qui participe au championnat de France, le texte ne sera pas signé ce jour-là.
Mais ça fait déjà un an que ça dure, hein. C'est pas un texte sorti du chapeau.
Les entreprises de travail temporaire ont bloqué, refusé de le signer en l'état.
Voilà, on y travaille, donc il y a de la médiation, il y a de la négociation, chacun fait un pas et tout se passe très bien.
La convention des bonnes pratiques sera mise en ligne quelques jours plus tard sur le site du SFETH.
Votre sourire me dit que c'est un petit peu compliqué plutôt, mais...
Non, c'est le soleil, mais j'ai toujours un sourire... Non, aucun problème. aussi des interventions dans des milieux confinés, dans du silo. Historiquement, on n'a pas de très bons souvenirs puisqu'on a eu des accidents graves, voire mortels. C'était en 2012. C'était Bazincourt. Bazincourt, 2012, deux morts, deux gars à nous.
Ouais. En mars 2012, c'est cet intérim, et donc Pierre Potier, qui a embauché Arthur Bertoli et Vincent Dequin à Bazincourt.
Quelles étaient les raisons de l'accident ?
Alors l'affaire est toujours en justice, on va être assez prudent sur ce qu'on dit. On n'a pas beaucoup d'éléments puisque toutes les pièces sont bloquées. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger le personnel lorsqu'il va dans ce type de structure. Voilà, pour l'instant, on en est là. On ne pourra pas résumer comme ça sur un court entretien. On ne peut pas simplifier les problèmes. Voilà. Donc on parle de trappe, de consignation, de cils, d'effondrement, de poche, on peut parler de tout. Mais sur le fond, soit c'est un vrai sujet, il faut sortir des documents et vraiment travailler dur, mais on ne peut pas simplifier ni peut-être chercher la petite phrase qui va plaire ou déplaire. Quoi. Je le pense ça. Mais un jour, lumière sera faite et je pense que l'objectif de chacun, c'est qu'à terme, on ne parle plus de ces accidents qui sont monstrueux.
En tant que cordiste, on a plutôt accès à des plans de prévention qui sont un peu tous des copier-coller avec
Mathieu Piketty,
avec un peu des banalités, des gens jeter pas de l'eau dans les escaliers quand il fait moins d'eux, etc.
Ex-responsable de l'agence Île-de-France de cet intérim.
Et qui n'ont souvent rien à voir avec le réel danger, là, pour le coup, de l'effondrement possible du sucre et zéro précaution qui avait été prise par le client et puis par Christa Vignon aussi.
Pour avoir un aperçu plus concret du fonctionnement d'une boîte d'intérim spécialisée en travaux en hauteur.
Honnêtement, c'est pas un boulot qui m'épanouissait particulièrement et je suis bien content d'en être sorti.
Il a fallu se tourner vers l'ancien responsable d'une des agences de cet intérim.
J'ai fait ça pendant un peu moins de deux ans. Peu de temps après l'accident de Bazincourt, six mois, un an après, moi je suis reparti de la CEP et je me suis remis dans les travaux en extérieur, cette fois pas dans les bureaux.
Celle qui a envoyé Arthur Bertoli, Vincent Dequin et Frédéric Soulier dans les silos de Cristal Union.
Carrefour Service m'avait demandé trois cordistes pour faire du nettoyage de sucreries, avec assez peu de précision au-delà de ça, de la tâche qui les attendait.
Lui parle sans langue de bois.
Les agents d'intérim, à l'époque j'étais tout seul et je gérais 40 à 50 intérimaires, ce qui est des fois plus dans des boîtes plus généralistes, c'est quand même assez spécialisé. Et après moi c'est plus les retours des intérimaires sur les clients, qui faisait que je pouvais me méfier de tel ou tel client et avoir moins envie d'envoyer des cordistes chez eux après qu'ils me donnent leur retour d'expérience. Mais les clients eux-mêmes sont rarement très bavards sur les conditions de travail et des fois on a plutôt affaire à ceux qui ont vendu le chantier et techniquement ils savent pas toujours forcément comment les gars vont se débrouiller pour le faire. Après, moi, ça m'est arrivé aussi d'arrêter de travailler avec certains clients parce que, suite au témoignage des cordistes que j'envoyais là-bas, je finissais par les trouver dangereux. J'étais loin d'imaginer le genre de situation de travail où les gars ont été envoyés. Ils m'ont dit une sucrerie, un nettoyage de sucrerie, et c'est vrai que dans ma tête, ça se rapprochait de ce que j'avais déjà fait avec eux quelques années auparavant, et c'était plutôt le nettoyage de l'usine. Et pas un gros silo comme c'était là, avec des crêtes de sucre qui sont à 10-12 mètres et puis du vide en dessous. J'ai pas eu suffisamment de détails sur la mission ou d'avertissement à leur donner ou de connaissance. Je pensais connaître suffisamment le métier, mais pour le coup, c'est une situation particulière dans la sucrerie. Je n'avais pas idée de ce genre de risque avant l'accident. Ils avaient normalement prévu avoir une formation à la sécurité l'après-midi, après qu'ait lieu l'accident. L'accident a eu lieu le matin.
On n'était pas nombreux là, mais on est là.
Julien Rivollet.
C'est plus possible que 5 ans après.
Formateur et responsable de chantier.
Deux accidents dramatiques sur le même site.
Cordiste depuis 2010.
Un nouvel accident se reproduise très similaire. C'est pas possible.
Auteur d'un rapport de la CGT cordiste sur les travaux sur corde en espace confiné.
Je me suis permis de faire un petit document sur le travail sur corde en milieu confiné. L'idée c'était d'essayer de recenser les risques auxquels les cordistes peuvent être exposés dans ces travaux. Je ne sais pas s'il y a d'autres métiers ou d'autres activités professionnelles où on peut être exposé à autant de risques mortels en même temps. En silo, on est exposé, en plus des risques de chute de hauteur, à des risques éventuellement d'explosion, d'ensevelissement, de chute d'objets, d'exposition à des gaz toxiques, à un manque d'oxygène, des risques de noyade si on travaille au-dessus de l'eau. Et ça, l'INRS, qui est là pour faire des recherches sur la sécurité au travail, explique clairement que pour travailler en milieu confiné, pas forcément sur corps, pour travailler en milieu confiné, il est obligatoire d'être formé spécifiquement à la tâche qu'on va réaliser. Une formation qui doit être théorique, pratique, consignée par écrit, avec des rafraîchissements ou des recyclages aussi souvent que nécessaire. Qui pratique ça aujourd'hui? Je ne le sais pas. Au-delà de ça, on doit disposer de systèmes d'évacuation efficaces, testés avant les opérations. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées.
Aucune des victimes de 2012 comme de 2017 n'avait été formée aux spécificités des milieux confinés. Et pour cause. Hormis de rares perfectionnements internes délivrés au bon vouloir des employeurs, il n'existe aucune formation officielle et obligatoire dédiée à ce domaine. Lâcher des nouveaux dans un silo, sans même les briefer, n'a rien d'illégal.
Tout le temps, partout, en ce moment même où on parle, il y a des gens qui se mettent en danger. Mais c'est pas forcément de leur faute. C'est à nous de prendre conscience, de ne pas se mettre consciemment en danger. Mais on peut être aussi largement inconscient des dangers, parce qu'on n'est pas formé pour reconnaître tous les dangers auxquels on peut être exposé. Et là, par contre, c'est le travail des employeurs et des exploitants de sites qui nous font travailler sur leur site. Eux, ils doivent être conscients des dangers auxquels on va être exposé et nous donner tous les moyens pour s'en protéger.
Zoomer sur les lacunes en matière de réglementation et de prévention à la sécurité dans les milieux confinés a-t-il un sens quand les règles de la profession tout entière sont elles-mêmes particulièrement floues?
Aujourd'hui, n'importe qui prend deux intérimaires, ou un intérimaire, beaucoup tout de suite, qu'on envoie quelque part sur une tâche.
Marc Gratalon.
Donc, c'est au cordiste de prendre les responsabilités de tout chantier de la sécurité à la place de l'employeur.
Référent national au sein de l'Association pour le développement et la promotion des métiers sur corde, DPMC.
Aujourd'hui, une entreprise spécialisée, c'est ça qu'elle doit faire une étude d'analyse comparée des risques pour savoir si la corde est le meilleur moyen pour accéder en hauteur, s'il n'y a pas d'autres moyens qui sont plus sûrs. Et donc, elle doit faire ce travail en amont. C'est pas une entreprise qui prend un intérimaire, qui connaît rien, qui prend un intérimaire, qu'on veut déjà encaisser.
Théoriquement, du moins légalement, n'importe qui peut devenir cordiste. C'est-à-dire qu'il y a une formation officielle qui existe, enfin, il y a une certification qui existe, le CQP, mais elle n'est pas légalement obligatoire.
Non, il n'y a rien d'obligatoire. C'est la formation qui est obligatoire, sauf qu'ils n'ont jamais décrit dans le texte de loi le contenu de la formation. Au niveau de l'INRS ou de la Direction Générale du Travail, parce que pour l'instant, ces autres institutions, les travaux sur corde sont interdits, point barre. Et on n'a pas le droit d'exister.
En fait, les cordistes sont censés déployer leurs cordes exclusivement là où tout autre équipement et technique d'accès, comme la nacelle, sont impossibles ou plus risqués. Pour tous les autres cas, le Code du travail précise que les techniques d'accès et de positionnement en moyen de corde ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail.
Au lieu d'avoir l'aide d'une institution pour nous aider à structurer la profession, pour éviter toutes les dérives qu'on peut voir, ils nous ont laissé nous débrouiller tout seul. Et c'est bien ce qu'on a fait pendant des années pour faire reconnaître la légitimité des travaux sur corde et pour que les certifications cordistes soient d'un haut niveau et qu'elles soient reconnues par tout le monde. Aujourd'hui, un CQP1, c'est pratiquement un CASSAS. On est obligé pratiquement d'avoir un CASSAS pour travailler sur corde. C'est le fruit d'un travail de tous les acteurs depuis la création du premier CQP en 96. Hein.
Mais le DPMC le dit elle-même. Un certificat de qualification professionnelle de niveau 1 ne peut être considéré comme autonome. Le vrai diplôme, c'est donc le CQP2.
La certification CQP2 est la certification du cordiste professionnel. Personne, pour différentes raisons, n'a joué le jeu. Et tout le monde est souvent resté au niveau du CQP1. La certification du cordiste professionnel, c'est le CQP2 depuis sa création, entre autres en 2002. Ouais. C'est bien dans cet esprit que le CQP1 est simplement un passage pour rentrer un minima pour que les gens travaillent en sécurité, sur corde, dans l'environnement du travail français, dans tous les secteurs d'activité. Le cordiste professionnel, c'est le CQP2. Donc tout le monde, à partir du moment où on reste dans la filière cordiste, devrait être titulaire du CQP2.
Or, ils sont très peu à passer leur CQP2. En 2017, pour 1200 inscrits en CQP1, ils étaient 193 en CQP2. c'est que les cordistes ne voient pas l'intérêt de débourser entre 3 et 5 000 euros en moyenne pour un certificat qui n'était reconnu jusqu'alors que symboliquement.
C'est un dramatique rappel.
Charles Lanza.
Voilà ce qu'on risque tous les jours, même si on peut prendre ça à la légère.
Cordiste superviseur et instructeur pour l'Association des métiers de l'accès industriel au moyen de cordes, IRATA en anglais, une association parallèle au DPMC.
Quand il y a un drame comme ça, on peut tomber dans les choses, je ne vais pas vous l'apprendre, très sordides. On va pouvoir voir mis en cause le niveau de compétence de feu nos camarades. On va certainement lire ou entendre que c'était leur faute, c'est bien conscience. Non, c'est inadmissible. Et c'est révoltant d'entendre ou de lire des trucs comme ça. Non, on est des travailleurs. Tout ne doit pas reposer sur nos épaules. C'est inadmissible. On voit depuis quelques années, malheureusement, on a perdu des camarades. Alors jusqu'à quand on va continuer à faire comme ça? C'est pitoyable, c'est l'histoire qui se répète. On tombe dans les mêmes travers d'organisation, de supervision, de génération de cordistes en génération de cordistes. Et chez nous, les générations, elles sont jeunes. Hein. C'est tous les 2-3 ans, on a une nouvelle génération qui arrive. Tout seul, on n'est rien. Nous, ce qu'il nous faut, il nous faut de la formation, il nous faut du matériel, mais il nous faut un besoin vital de l'organisation et de la supervision aussi. Notre métier, on est trop livré à nous-mêmes.
Ouais, moi je voulais dire un truc, je suis pas très ancien dans la corde, mais j'ai déjà travaillé en silo confinement comme ça. Et quand j'ai reçu mon contrat, la première chose qui m'a surpris, c'est que c'était marqué zéro risque. Dans ma tête, je dis zéro risque, ok, c'est cool, c'est nickel. Mais quand je vois qu'il y a un collègue là qui j'ai travaillé un mois avec, qui est déjà décédé, quand je vois ça, ça me fait rire un peu. Et c'est pas du tout à rire, c'est même triste. Qu'on prend autant de risques et qu'on ne soit pas reconnu rien que par le contrat déjà qu'on nous fait. C'est-à-dire un contrat zéro risque. Alors on a un explosiomètre autour de notre cou, mais apparemment il ne sert à rien vu qu'il n'y a pas de risque. Sur mon contrat, c'est marqué zéro. Donc je ne devrais même pas l'utiliser. Ensuite, le confinement, le masque, la combinaison, ça sert à rien, il n'y a pas de risque. Je ne vois pas pourquoi je dois utiliser tout ce matériel alors qu'il y a zéro risque. Moi, j'en veux surtout, c'est aux boîtes d'intérim qui nous font nos contrats et à tout va pour nous payer le moins cher possible. Et les risques, on les a, mais ils ne nous les notent pas et on n'est pas payé en conséquence. Et ça, c'est vraiment honteux.
Chaîne YouTube du groupe Proman, 8 juin 2016.
Par contre, il y a une chose qui est super importante et qui fait qu'aujourd'hui, je suis chez Proman, je m'y sens bien, c'est qu'il ne faut pas perdre cette âme.
Ce sont des valeurs humaines. Et ça, je pense que c'est des valeurs de proximité. Ah, pour moi, c'est un des motifs pour lesquels j'ai rejoint le groupe Proman.
Ouais, l'aspect humain, c'est énorme.
Alors, donc moi, je suis donc le responsable de l'agence Cordial qui est basée à Rennes. D'accord, donc le groupe Cordial, c'est un groupe qui a 12 ans d'existence. On appartient au groupe Proman et on est la filiale du groupe Proman qui est spécialisé dans tous les travaux d'accès difficile et grande hauteur.
D'accord. Est-ce que vous travaillez toujours avec l'entreprise ETH basée à Le Forest?
Oui, ça arrive.
Est-ce que vous connaissez le nom de Quentin Zahraoui Brua?
Oui. Alors, je peux vous dire que c'est un de nos techniciens, mais si c'est pour aller sur ce champ-là, je vais vous conseiller de vous rapprocher de mon service juridique.
Quel est le problème, en fait de... Qu'est-ce qu'on peut... Quel est le problème?
Le problème, c'est que moi, j'ai une directive de mon groupe. C'est un dossier qui est géré directement par mon siège, mon service juridique et mon service QSE.
D'accord. Alors, en dehors du dossier, est-ce que vous avez retravaillé avec ETH depuis l'accident qu'il y a eu en juin 2017?
Mais quel est l'objet du... Alors là, je comprends plus. Si c'est pour évoquer ce sujet-là, c'est pas la peine. Hein.
Pour moi, c'est une entreprise qui ne ressemble pas aux autres, puisque c'est une famille qui la gère, qui est à l'écoute de ses salariés.
Ce côté familial, ce côté sincère, mais dans un monde de professionnels que nous sommes aujourd'hui, grandir à l'horizontale, c'est-à-dire en termes de business, en ayant une verticalité de nos valeurs.
Si c'est pour évoquer ce sujet-là, c'est pas la peine.
Vous, en tant que responsable de cette agence, quand vous envoyez des hommes comme ça, des cordistes sur le terrain, est-ce que vous connaissez bien les chantiers sur lesquels ils travaillent? Est-ce que vous vous y rendez préalablement pour vérifier les chantiers et savoir comment ça se passe concrètement sur le terrain?
Dans la mesure du possible, oui. Bon, je vais couper court parce que là, je sens que vous cherchez la petite bête. Donc.
Je cherche pas la petite bête, monsieur. Il y a eu 3 morts à Bazancourt. C'est un peu normal qu'à un moment donné, il y ait des gens qui essayent d'enquêter et de comprendre comment ça se passe. C'est pas du tout chercher la petite bête.
Mais je suis pas la personne qui est à même de vous répondre dans ces cas.
Vous êtes bien le responsable de l'agence qui a envoyé Quentin Zahraoui-Brua à Bazancourt.
Avec une délégation de pouvoir, oui, tout à fait.
Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je vous interview. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de petite bête. J'essaye de comprendre comment se fait-il qu'il y avait dans son équipe que des débutants, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas plus d'un an d'expérience dans les pattes, qui étaient tous intérimaires, à peine formés, c'est-à-dire qu'ils avaient un CQP1 et que le chef de chantier n'avait même pas de CQP1. Est-ce que vous étiez au courant de cette situation? Moi, je veux juste savoir, est-ce que vous étiez au courant de cette situation?
Là, il faut vous rapprocher de TH, là.
Vous, en tant que responsable de cette agence, est-ce que vous étiez au courant du fait qu'il n'y avait pas de CQP2 pour encadrer malgré un référentiel? Bon, je veux juste poser des questions.
Il m'a posé là à mon service juridique.
Bon, très bien. Je vous remercie, monsieur.
Allez, au revoir.
Ça roule. Ouais, l'aspect humain, c'est énorme.
Bazancourt.
On est une vingtaine de cordistes. Moi, honnêtement, faire bouger les choses, c'est bien. Hein. Honnêtement, je dis pas le contraire.
Rassemblement pour Arthur, Vincent et Quentin.
Mais c'est pas à 20 qu'on va changer quoi que ce soit. On voit tous les mecs là sur Facebook et tout qui sont en train de brailler, ils sont jamais contents, il y a rien qui va. Par contre, ils sont là. Non, ils sont pas là.
Non.
Faire bouger les choses, c'est très bien. Hein. Ouais, mais c'est pas à 30 qu'on va changer quoi que ce soit. On va peut-être bouger quelques petites pierres, comme tu dis. Ouais, après, une petite pierre, ça peut devenir une avalanche, je dis pas le contraire.
Ouais.
Mais enfin, faut être un peu plus, quoi.
C'est aussi pour ça que je suis arrivé à 4h du matin cette nuit. Donc, j'ai pas dormi beaucoup, je suis parti hier après mon chantier. Si je suis venu là aussi, c'est pour rencontrer des gens qui, justement, ont envie de se bouger le cul pour ça, comme il l'a dit, pour le métier, pour qu'on ait de meilleures conditions de travail, autant de la part de nos employeurs. Que la part de nous, quand on a une idée sur un mode opératoire, sur une évolution de matériel, sur quelque chose, pour moi on est au début. La corde, ça fait un moment que ça existe, moi ça fait pas mal d'années maintenant que j'y traîne, mais voilà, c'est quelque part, en tant que milieu organisé, structuré, c'est zéro. Ça peut commencer là, ici, maintenant.
Enfin, moi, si je suis venu aujourd'hui, c'est un peu comme toi, ben, c'est pour rencontrer d'autres collègues et puis pour avoir des petits bouts de réseau, des petits bouts de contact. À 3 reprises, il y a des collègues qui meurent dans des silos. En fait, c'est inacceptable au possible. De la même manière, j'ai entendu un collègue qui est dans le TP qui se fait pousser au cul pour pas bosser sur 2 cordes. Quand on lui dit de bosser, vas-y, va sur ta corde, vas-y, tu vas pas faire chier, va poser ta corde, tu vas perdre 10 minutes. Ben, le collègue, il est tombé, il s'est brisé les coccyx, hein, je sais pas combien de morceaux. Et après ça, derrière, t'as le patron qui est, le gars, il est au sol, il est à peine de tomber, le patron, il arrive, il vient le voir, il lui dit bon, mais écoute, avant que les secours arrivent, on va faire 50-50, on dit on va partager la responsabilité. Mais en fait, c'est complètement inacceptable. Et en fait, si on accepte ces trucs-là et qu'on n'arrive pas en fait à juste solidariser et à trouver des moyens, mais en fait, c'est à construire, que ce soit par le syndicalisme ou par toute forme en fait d'organisation. Le principal, c'est de trouver des formes d'organisation entre nous, mais pour réussir à construire des rapports de force face à nos employeurs, parce que au final, en fait, c'est eux qui tirent les profits en fait, de notre boulot. Nous, on est là juste pour vendre notre force de travail et eux, ils tirent le profit de notre boulot. Ça prend du temps, mais il faut qu'on arrive à discuter et à trouver des formes d'organisation entre nous pour serrer les coudes. Quoi.
Il est désormais temps de faire le point sur la façon dont est régie la profession. Déjà, que représente exactement l'Association pour le développement et la promotion des métiers sur corde ?
C'est une association qui a été créée en 2002.
Marc Gratalon.
À l'époque, par le syndicat ouvrier et le syndicat patronal pour gérer les certifications cordistes et faire la promotion du métier de cordiste.
Référent national du DPMC.
On a un peu, entre guillemets, le bras armé des partenaires sociaux pour faire avancer les choses en différents domaines. Quoi.
Le bras armé des partenaires sociaux. Sauf que le DPMC est une émanation directe du SFETH et que le SFETH est un syndicat patronal, Seuls ses 37 membres, tous exclusivement chefs d'entreprise, peuvent faire partie du conseil d'administration du DPMC. Peut-on dire, dès lors, que le DPMC est le bras armé des patrons des boîtes de cordes ? Est-ce que dans votre association, il y a des représentants de salariés ?
Alors, il y en a plus depuis... Même si les examens, eux, sont paritaires, la plupart du temps, aujourd'hui, il n'y a pas de représentants des salariés. Ouais. Parce que le syndicat ouvrier à l'époque a disparu suite au décès de son président. Et ensuite, il y a juste cette année où un nouveau syndicat ouvrier vient d'être recréé. Donc, pour l'instant, les salariés ne sont pas représentés. Hein.
Est-ce que pour vous, le DPMC est un organisme public ?
Non, mais il faut remettre les choses. Attendez, là. Les PMC, c'est une association qui a été créée par les partenaires sociaux. Donc, syndicat ouvrier, syndicat patronaux.
Aujourd'hui, il ne reste plus que des syndicats, il ne reste plus que des patrons. Enfin, des syndicats patronaux.
Oui.
Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un organisme public ?
Et le SFETH a œuvré pendant plusieurs années pour qu'un syndicat ouvrier se crée. Le syndicat ouvrier ne s'est pas créé. Sauf que récemment, ils s'est créé, ils sont rattachés au poids de la CGT. C'est une discussion entre le CFOTH et la CGT cordiste. Ils ne sont pas représentés au sein du DPMC pour des raisons qui m'échappent. Et personnellement, je pense simplement qu'ils sont pas encore, la CGT cordiste n'est pas encore structurée pour avoir montré au CFOTH qu'ils pouvaient rentrer, être entre guillemets mature. Hein, mur représentative aussi de cordistes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cordistes pour effectivement être un interlocuteur significatif, hein, c'est mon avis personnel. Hein, mais...
Parce que la CGT cordiste que j'ai contactée m'a dit qu'elle a tenté de faire partie de la DPMC, qu'elle a été d'une certaine manière refusée.
Non, c'est faux. C'est faux, il y a eu une demande officielle de fait, ça n'a pas été refusé tel quel. C'est-à-dire que le conseil d'administration attend des propositions concrètes, savoir comment ils peuvent s'intégrer dans une véritable collaboration. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. À partir du moment où ils seront organisés, structurés en associations qui seront réellement représentatifs avec des idées un peu novatrices, ils seront intégrés. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, le mot CGT fait peur, c'est vrai. Ils auraient été affiliés à la CGT, ça aurait peut-être été plus simple.
L'accident de 2012 a été un peu un déclic, en fait, hein, par rapport à cette démarche.
Frédéric Braquemard.
On a contacté les syndicats, on a contacté le patronat.
Fondateur de la CGT cordiste.
On a en face de nous des grosses machines, hein, des gens qui ont les oreilles comme ça. Hein. Sinon, on commence à vouloir demander des treuils ou des choses comme ça pour extraire du personnel en difficulté. C'est un tarif supplémentaire pour l'entreprise, donc ils vont prendre une autre entreprise. Enfin bon, c'est toute une logique. Et nous, on se retrouve, en fait, avec la bite et le couteau à travailler. Il y a des gens qui ne devraient pas être dans ce métier-là, des patrons, hein, pas des cordistes, mais des patrons, des donneurs d'ordre, où ils ne devraient pas être dans ce métier-là, ils cassent notre métier et on se retrouve avec ce genre d'accident. Nous, on pourrait très bien contacter les inspecteurs du travail et leur donner des façons techniques à régler le problème pour qu'ils voient qu'en vérité, c'est vraiment avec la bite et le couteau qu'on travaille et notre volonté. Parce que le problème, en fait, il est là. C'est à l'inspection du travail, elle ne connaît pas nos méthodes. Comment qu'un inspecteur du travail qui vient sur ton chantier, il voit que tu travailles, ok, mais il comprend pas comment que tu as mis tes cordes. Et comment qu'il fait ? Il va sur internet, il regarde, il tombe sur le site du SFETH, le SFETH c'est le patronat, il tombe sur le site du CIFORA, le CIFORA c'est le patronat, il leur téléphone, il leur dit voilà, moi j'ai telle problématique, est-ce que c'est correct ? Forcément toutes les entreprises, enfin il y en a énormément qui font partie de ce syndicat, qu'est-ce qu'on fait dans un syndicat ? On serre les coudes. C'est pas le SFETH, il va pas dire ah ouais c'est pas bien et tout. Non, ils vont endormir l'affaire. Ça fait 20 ans que ça dure. Là, ils ont une petite problématique en ce moment, c'est qu'on est présent, c'est qu'on arrive à se faire entendre.
Marseille.
Donc moi c'est Tristan, je fais partie de l'organisation des championnats de France de cordistes. Hier on a commencé avec 85 candidats, il n'en reste plus que 32. Et à la suite des 32, après on fait les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale. Donc tout ça va se faire cet après-midi en fait. L'épreuve ici s'appelle tu pulses ou tu zappes. Et donc ils doivent grimper avec des goujons récupérables qu'on appelle des pulses. Ils en ont deux et des étriers. Donc il y a 12 mètres de vertical et après on a 10 mètres à l'horizontale sous plafond où ils se déplacent de point en point. Et c'est pareil, les sangles sont de plus en plus écartées.
C'est quoi des goujons ?
Des goujons, c'est des ancrages qu'on met et que normalement ils sont fixes. Mais là, c'est un nouveau process qu'a développé Petzl. C'est des amarrages amovibles, ça s'appelle. Donc on les met, on peut les enlever, les récupérer. C'est innovant, c'est tout nouveau. Et donc c'est la première fois qu'il y a une épreuve comme ça sur ce type de championnat, en fait. C'est l'intérêt aussi de montrer les nouveaux outils, en fait. Les championnats de France de cordistes permettent aussi de, pour toutes les marques, en fait, d'être présents et de montrer aussi les nouveaux produits. Et comme Petzl est un partenaire, c'est important de montrer les produits sur le marché.
Dans le milieu de la corde, Petzl est bien plus qu'un partenaire. Le principal équipementier français pour les sportifs et professionnels des milieux inaccessibles possède, depuis 2006, une fondation qui œuvre pour la prévention des accidents, la préservation de l'environnement et l'amélioration de la connaissance. En collaborant notamment avec le SFETH, le syndicat patronal donc, la fondation Petzl a financé la seule et unique étude épidémiologique des blessures chez les cordistes français.
Pour la première fois, deux chercheuses de l'Université de Lyon se sont penchées sur les blessures de ces ouvriers du vertige.
France 3, Auvergne-Rhône-Alpes.
Leurs matériaux de travail.
8 novembre 2017.
500 questionnaires dans lesquels les cordistes décortiquent leur mode de vie et leur santé.
Des questionnaires réalisés uniquement dans la région Rhône-Alpes, où travaillent seulement 20% des cordistes français, et où ce ne sont pas les silos qui dominent les paysages, mais les montagnes.
On a plein d'idées reçues, mais on n'avait pas de diagnostic.
Si son cadre est limité, l'étude a le mérite d'apporter
un éclairage inédit, notamment sur le type d'accident. 40% des personnes interrogées déclarent s'être blessées les 12 derniers mois.
Mais aucune des pratiques des donneurs d'ordre ou des entreprises spécialisées en travaux en hauteur n'est remise en cause. Les chercheuses pointent plutôt les chantiers éloignés, les activités de pose de filets en falaise, la consommation de drogues douces et
la fatigue, car 80% des cordistes se disent fatigués en fin de journée.
Le soir, généralement, on fait un petit peu la fête pour décompresser, parce que c'est des métiers qui sont quand même un petit peu à risque.
Mais conclusion de tout cela, pour limiter l'usure professionnelle, les chercheuses proposent d'en passer par la sensibilisation à la préservation du capital corporel, la mise en œuvre de pratiques d'automassage,
la récupération, l'amélioration de l'hygiène de vie, ou encore l'évolution du matériel, quelques pistes pour préserver la santé de ces ouvriers pas tout à fait comme les autres.
Alors effectivement, on reste un métier dit à risque et il y a des accidents malheureusement, il y en a quelques-uns, il y a beaucoup d'incidents et peu d'accidents graves, on va dire.
Cette individualisation des problèmes tend à pointer du doigt les comportements des cordistes plutôt que la précarisation et la dégradation des conditions de travail.
C'est souvent des consignes qui n'ont pas été respectées, des procédures, des process de travail qui n'ont pas été respectés. C'est rarement lié à un défaut technique, on va dire. Où le matériel, où la technicité a été mise en cause. C'est souvent une négligence d'une personne pas accrochée ou d'un procédé qui n'a pas été respecté ou qui a été mal évalué. Oh, voilà. En fait. C'est souvent comme ça.
J'ai une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique a l'air d'être avec nous. Donc,
après, tu recoupes.
Oui, bien sûr. Qui vient de faire tomber un de ses étriers pour pouvoir monter. Donc du coup, en fait, il monte avec un étrier et une pédale. Ça veut dire qu'il va falloir faire des pas énormes pour pouvoir monter à chaque fois. C'est énorme.
Et il faut gagner quand même, c'est ça le pire.
C'est le champion du monde, vous avez dit ?
Le
champion du monde en titre, par équipe. Parce qu'il y a des championnats du monde aussi de cordistes.
Tous les deux ans.
Le Petzl Rap Trip.
Alors on fait quoi, maintenant ? Comment la profession s'organise-t-elle pour ne pas que des accidents comme ceux de Bazancourt se reproduisent ? Face aux lacunes en matière de formation et de prévention à la sécurité, toutes les conventions des bonnes pratiques à l'attention des boîtes d'intérim ou des donneurs d'ordre paraissent bien peu de choses. Ce qu'il faut revoir en profondeur, c'est la loi.
Il y a un projet de directive qui est dans le tuyau, qui viendrait du ministère du Travail.
Jacques Bordignon.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, au niveau des textes...
Président du SFETH.
On a une obligation de formation particulière pour les cordistes, mais c'est très vague. Ça pourrait être une formation d'une heure. Il n'y a rien de défini. Quand on dit formation particulière, qu'est-ce que ça veut dire ? Le niveau de compétence, il n'est pas précisé. Les savoir-faire ne sont pas précisés. Donc en fait, la directive, elle est destinée à préciser la formation et les niveaux de compétence. Ce qu'on voudrait, c'est que tous les cordistes pour travailler sur corde soient titulaires d'une certification. Donc c'est pour nous le CQP, ça veut dire certificat de qualification professionnelle de cordiste, au minimum du niveau 2. On a aussi un niveau 1, mais qui ne travaille que sous l'accompagnement de niveau 2. Et puis on a créé aussi un CQP au niveau encadrement, pour faire l'analyse des risques et la mise en place des mesures de prévention sur le chantier. On souhaite aussi que les chantiers ne soient pas réalisés avec 100% d'intérimaires sur site, qui est toujours au minima des salariés de l'entreprise. Et puis qu'il y ait une gestion des EPI, ce qu'on appelle les EPI, c'est les kits de cordistes, qui ne soient pas à la charge des salariés. Donc voilà, l'objectif, c'est que les entreprises respectent ces règles-là.
Cette directive, cette circulaire plus précisément, est attendue de pied ferme par toute la profession. Du SFETH à la CGT cordiste, en passant par l'INRS, tous les acteurs du milieu de la corde ont été consultés par la Direction Générale du Travail pour produire ce texte qui devrait sortir très prochainement.
Est-ce que vous tenez le compte des accidents et à chaque fois vous essayez d'analyser les causes ?
C'est difficile aujourd'hui de comparer nos taux d'accidents par rapport à l'ensemble du bâtiment, par rapport à d'autres professions. En fait, on n'a pas de statistiques officielles sur l'accidentologie de notre profession. Déjà, on n'a pas de code d'activité qui nous regroupe tous.
Et pour cause, le code d'activité principale exercée, APE, est délivré par l'INSEE afin d'identifier l'activité principale exercée par l'entreprise ou le travailleur indépendant. Or, comme les travaux sur corde sont considérés comme des techniques d'accès et non un métier à part entière, aucune convention collective ne définit l'activité du cordiste. Les cordistes sont donc éclatés dans diverses branches professionnelles.
On a des entreprises de travaux sur corde dans le nettoyage, d'autres dans la métallurgie, d'autres dans le levage, d'autres dans les travaux publics. Nous sur le syndicat, on n'a pas forcément les moyens de mener ces enquêtes-là. Mais si on avait un code d'activité, ouais, à ce moment-là, à partir du code d'activité, je pense qu'à ce moment-là, que ce soit les caisses d'assurance maladie ou l'inspection du travail, ils seraient capables de sortir des données. On avait demandé, et puis ça a été refusé, parce que c'est une demande qui date de quelques années, mais ils avaient dit qu'on n'était pas assez nombreux pour créer un code.
Et maintenant, ça se développe de plus en plus, non, quand même.
On pourrait effectivement maintenant redemander à remettre la question sur la table. Ouais.
Jacques Bordignon aurait pu préciser toutefois qu'en 2013, de sa propre initiative, le SFETH avait commandé une enquête interne sur l'accidentologie à une société de prévention des risques professionnels affiliée au syndicat. Il en ressort que 46% des accidents sont liés aux méthodes, procédures et main-d'œuvre. Sur seulement 22 entreprises consultées alors, il y avait eu en 3 ans 174 accidents ayant donné lieu à un arrêt de travail, 30 accidents ayant donné lieu à une hospitalisation de 48 heures au moins, ou d'un mois d'arrêt de travail, et 4 accidents mortels.
On n'a pas prévu, là, au sein du championnat, d'aborder ces événements-là. On en parle, nous, parce qu'en parallèle du championnat, il y a des tables rondes, il y a l'AG du syndicat, etc. Donc là, effectivement, dans ces discussions-là, on parle des accidents, on parle de la sécurité. Mais sur le championnat, non, parce que le championnat, c'est pour les cordistes qui sont ici présents, c'est vraiment un événement festif, c'est une compétition. Et puis entre eux, c'est l'occasion où ils se retrouvent tous les ans. Enfin voilà, on n'a pas prévu de... Non.
Je vais pas ternir l'événement avec quelque chose qui serait un petit peu...
Enfin, ça n'a pas été prévu. Voilà.
Jacques Bordignon a tenu parole.
C'est vraiment un événement festif, c'est une compétition.
Les championnats de France ont été une belle fête. Les cordistes de sa société ont d'ailleurs remporté haut la main la première place du classement en individuel et par entreprise.
Changement de décor.
Centre des congrès de l'OB.
Et ça, l'Union, c'est 2 milliards d'actifs.
3.
L'Union est aujourd'hui l'acteur, leader.
14 juin 2018.
1 milliard d'euros ont été consacrés pour devenir le quatrième acteur européen.
Assemblée générale de Cristal Union.
Mais on est effectivement dans un secteur qui éveille beaucoup d'idées reçues et sur un champ notamment qui est surcroît.
En fait, il faut faire tout un travail de communication même auprès du consommateur. Essayer de dire que le sucre, c'est pas forcément mauvais pour la santé.
Les gens qui se croient porteurs d'un discours, d'alerte, ils veulent faire le bien.
Nous avons toute cette année des articles. Sur le sucre.
Ils vont attaquer systématiquement, ce qu'on appelle les attaquants naissants, un certain nombre de produits à l'odeur.
C'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui vont se mettre à consommer sans sucre pendant 15 jours, ça leur fait du bien, mais le sucre, c'est la vie. Ouais.
Ce sont ceux qui sont porteurs de radicalité mentale.
On se rend compte que quand on retire le sucre, le consommateur le sait, le sent, que les alternatives ne sont pas forcément des solutions.
Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose.
Si on enlève le sucre, où est la notion de plaisir?
C'est vrai que là, on voit l'importance de garder la confiance de nos consommateurs.
La notion de pause aussi. Ça fait plaisir aussi de manger un produit réconfortant.
Parce que le jour où on la perd, on doit refaire ce travail de conviction.
Il faut penser à la façon dont cette transparence s'organise pour ne pas s'abonner la pente de la narration paranoïaque.
Par exemple, tient des propos du style « le sucre est une drogue, le sucre tue ». Ou est-ce que c'est juste ce jour-là, elle n'a pas eu sa dose de sucre ? Avant de clôturer cette première partie de réunion,
Olivier de Beauhan,
je voulais revenir sur un point.
Président de Cristal Union.
Nous savons tous les débats qu'il y a actuellement au sein de la profession et plus particulièrement ces derniers temps sur le statut coopératif, la transparence et tout ce qui va derrière. Et je pense que souvent le reproche qui est dit, qui est fait en disant ça manque de transparence. Est-ce qu'on connaît beaucoup de systèmes d'entreprises où il y a une telle transparence ?
Quelques mois plus tôt.
Oui, allô ?
Allô, Madame Franzoni ?
Direction de la communication de Cristal Union.
C'est un collègue, Marie Deveni. Je pense qu'on s'était eu il y a 2 semaines au téléphone.
Ah bon ? Oui, bah peut-être, parce que ça fait un moment que j'essaie d'avoir quelqu'un qui puisse me répondre au sujet de l'accident de Bazancourt, les accidents.
Il n'y a personne qui peut vous répondre là-dessus, monsieur, en fait. Donc ça ne sert à rien de continuer à appeler. On n'aura pas de réponse à vous fournir.
On est vraiment très attachés à cette transparence, cette proximité.
Là, je suis un peu surpris parce que vous me dites ça comme si qu'il y a eu 25 refus. Or, il n'y a eu aucun refus. C'est la première fois que j'ai une réponse qui me dit « on ne vous donnera pas de réponse ».
Voilà, je vous donne la réponse. En fait, on s'exprimera pas sur le sujet. Voilà, donc ça ne sert à rien de continuer à appeler. On n'aura pas de réponse à vous fournir là-dessus.
Et tout le message qu'on a passé pendant nos assemblées générales de section, c'est un message de vérité, un message d'honnêteté.
Voilà. Ça veut dire qu'en fait, depuis le début, vous êtes conscient que j'appelle, mais vous répondez pas.
Entre-temps, je suis pas décisionnaire là-dessus, mais là, je sais que vous appelez depuis un moment, donc j'en ai parlé à ma responsable, et la réponse est claire, on n'a pas de réponse à vous donner là-dessus.
Daddy a dit, sucre Daddy a dit, qu'est-ce qu'il a dit ?
Parfois, si vous êtes trop transparent, ça peut se retourner contre vous.
J'ai pas compris, il a dit sucre, c'est ça qu'il a dit. Daddy a dit,
sucre ta vie.
Nous avons, pendant la dernière campagne, battu des records de cadence.
Centre des congrès de l'OB.
Nous avons travaillé en moyenne 135 000 tonnes de betteraves par jour. C'était du jamais vu dans votre coopérative. 135 000 tonnes avec partout, dans les 10 usines du groupe, des cadences qui ont été les plus élevées que Cristal Union n'ait jamais connues. Et tout ça n'est pas le fruit du hasard.
Ferroviaire se déplace pour n'importe quoi, et pas pour la mort de trois jeunes.
Parking de Cristanol.
On peut se défendre contre ça. On peut se défendre. À Paris, je vis à Paris, ils se déplacent pour moins que ça. Vous avez tous les médias qui viennent, et nous, rien. Rien, c'était notre neveu.
On a présenté vos comptes, et vous verrez les Échos, vous verrez Figaro, vous verrez Raga. Vous verrez que la performance du Cristalino est quand même saluée par rapport à d'autres qui ont été beaucoup moins honorables.
Mais on va encore faire quelque chose.
2017, année fantastique.
Moi, je ne veux plus rester comme ça, avec cette douleur. La moitié de ma famille n'a pas voulu venir, tellement ils ont le cœur retourné, ils sont tristes. Ils ne voulaient pas revivre ce qu'on a vécu là.
Un outil industriel comme Cristalino, c'est aussi la force de l'ensemble des collaborateurs et la mobilisation des salariés autour des valeurs portées par Cristalino.
Pourquoi le directeur n'est pas là? On est quoi? Pourquoi il n'est pas là?
Nous faisons aujourd'hui les efforts nécessaires qui nous permettent de rester compétitifs et améliorent la qualité de vie, la qualité, l'amélioration de la performance dans la vie de tous les jours. On a également poursuivi par des investissements dans les silos.
Notre vie, elle a basculé. Elle a basculé, c'était dramatique.
La performance économique, mais également le volet social avec la prise en compte de l'accidentologie sur des sites industriels lourds.
Je ne sais pas où on a trouvé la force de venir. Je ne sais pas.
Vers le zéro accident, il est clair que dans un outil industriel, nous devons aller vers l'excellence en ce qui concerne la sécurité au travail.
Et vous faites un métier dangereux. Prenez soin de vous, faites attention. Comme elle a dit la dame, refusez quand on vous envoie dans des endroits dangereux. Il y avait des gens qui vous aiment.
Mais tout ça montre que, je dirais, sans aucune prétention de ma part...
Et on va bouger, je suis désolée, on va bouger.
Il fait bon vivre chez Cristal.
Pour un député, journaliste indépendant, ma question est la suivante. Est-ce que vous connaissez Quentin Zavarrigouvia, Arthur Restelli et Vincent Dequin, monsieur Debord? Est-ce que vous connaissez ces trois noms? Est-ce que vous connaissez le nom de Quentin Zavarrigouvia, Arthur Restelli et Vincent Dequin?
Non, pas spécialement.
Allez-y, continuez, monsieur. Donc c'est trois ouvriers, trois jeunes de Cordis qui avaient 21 ans, 23 ans et 33 ans qui sont morts dans les silos à sucre de Bazancourt, les silos de Cristalino. Ils étaient dans l'équipe de Quentin Zavarrigouvia qui est mort le 21 juin 2017. Ils étaient tous intérimaires, débutants et à peine formés. Le lendemain de la mort de jeune homme, le 22 juin 2017, vous publiez votre chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros pour les 7 derniers mois, votre forte rentabilité, comme vous l'avez rappelé aujourd'hui, votre excellente situation financière de votre coopérative. Est-ce que c'est ça la politique de votre groupe coopératif, M. Beaumont? 3 morts en 5 ans, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et quelle est votre réaction par rapport à ces 3 morts en 5 ans qu'il y a eu sur le site de Cristalino, dont vous n'êtes visiblement pas au courant?
La chose que je peux dire, monsieur, c'est que, et je pense que tous les salariés qui sont dans cette salle, il y a une véritable âme au sein de Cristalino et une vraie préoccupation et un vrai souci vis-à-vis des conditions de travail et du travail au sein de Cristalino. Excusez-moi, je vous ai laissé parler, mais c'est la bonne. Évidemment que je suis au courant. Évidemment qu'on a manifesté des soutiens et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans la vie des entreprises, il y a ce type d'accident. Ça peut arriver, malheureusement, ça peut arriver. Et on le déplore. On le dit. Monsieur, s'il vous plaît, on va pas.
Non, mais je vais passer.
Oui, non. Moi, vous me laissez répondre, s'il vous plaît. Et donc, pour conclure sur ce propos que vous tenez, qui, quand vous avez une remarque comme ça, monsieur, vous voyez, ça fait partie du débat qu'on avait tout à l'heure aussi. Monsieur, s'il vous plaît.
On va enterrer sur des centaines de tonnes de sucre et de neige.
Attends, moi, stop.
Par rapport aux familles. Vous me dites que Cristalino a réagi depuis le début, c'est ça.
Monsieur, s'il vous plaît, vous rendez le micro, on va arrêter. Parce que nous, on a le souci du social.
Il travaille à 36 degrés.
On a nos valeurs humaines. Arrêtez avec ça.
Dans des silos, dans une chaleur étouffante. Une obscurité totale.
Un endroit, c'est un tombeau. C'est pas une usine, c'est un tombeau. La roue, elle tournera. Chaque action mérite quelque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a toujours des répercussions. En attendant, la mémoire de Montilieu ne sera pas étouffée. Et même la mémoire des autres hommes qui sont partis, elle ne sera pas étouffée. Vas-y.
C'est le SMIC de 10 euros.
Monsieur, vous avez
une idée. Monsieur, vous avez une idée. Bravo, vous avez une idée. Bravo, vous avez une idée. Tu touches pas ma caméra. Tu lâches. Tu lâches ma caméra. Tu lâches ça. Lâche. Tu lâches. Tu me lâches. Je vais me lever, mais tu me lâches.
Réalisation, Franck Després. Son, France Timmermans. Reportage au championnat de France des cordistes à Marseille, Nina Hubinet. Reportage au rassemblement de Bazancourt, Xavier Pardessus. Musique originale, Maxime Simone.
Ça va pas partir comme ça. Et ses collègues aussi. Que tout le monde le sache.
Profession cordiste, c'est un reportage de Franck Després. Franck Després à qui j'ai passé tout récemment un petit coup de fil, parce que depuis le tournage, le dossier a évolué, notamment du point de vue juridique.
Il y a deux choses à évoquer. La première, c'est d'un point de vue juridique. Il y a eu depuis le tournage, en début janvier dernier, un gros procès qui s'est tenu à Reims, au tribunal correctionnel de Reims, qui concernait le premier accident qui s'est déroulé à Bazancourt, du moins le premier accident mortel. Donc, comme on l'entend dans le sujet, il s'agit de l'accident qui a concerné Arthur Berthelli et Vincent Dequin, qui avaient 23 ans et 33 ans. Ce procès-là s'est tenu en une journée, une grosse journée qui a duré 12 heures, et a permis enfin de mettre un visage sur les personnes qui sont acteurs de cet accident, enfin du moins qui sont prévenus dans cette affaire. Donc il y avait la société Carrard Service, la société de nettoyage, qui était représentée par son responsable de l'époque, et une personne morale. La personne morale, d'ailleurs, ne s'est pas déplacée. Et par contre, pour Christelle Union, il y avait un responsable de l'époque et une personne morale. Le procureur a demandé 100 000 euros d'amende pour les deux sociétés, 100 000 euros d'amende de dommages et intérêts. En tout début de séance, et ça je pense que c'est assez inédit en matière judiciaire, le président du tribunal s'est limite excusé auprès des victimes, s'est excusé parce qu'il y a eu 7 ans de procédure et il a déclaré cette autre procédure, si les proches des victimes ont considéré cette procédure anormale, elles avaient raison. Et la troisième chose importante, c'est que Carin Service et Christelle Union se sont rejetés la faute sans trop se remettre en question sur leur pratique. Et les cordistes ont eu très peu la parole. Le seul cordiste qui était présent lors de cette audience, c'était l'un des deux survivants, Frédéric Soulier, qui a interviewé durant donc le durant le reportage que vous avez pu entendre.
Et le jugement a été mis en délibéré ?
Voilà, le jugement sera donc rendu le 1er mars prochain, oui.
Je disais qu'il y avait une deuxième chose à souligner depuis le tournage.
Tout à fait, oui. C'est-à-dire que ce procès a été aussi l'occasion pour les cordistes de s'organiser. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient se rassembler. Alors, ils ont essayé une tentative de syndicat avec la CGT cordiste qui a été... qui n'a pas été assez concluante, qui a permis d'avoir quelques avancées, notamment un premier rapport sur les risques en milieu confiné, c'est une chose qui n'avait encore jamais été faite, donc la CGT cordiste a permis ce genre d'avancée, mais elle n'avait pas été au-delà. Et en fait, depuis quelques temps, et il faut dire que la publication d'articles que j'ai écrits a aussi un petit peu impulsé une certaine dynamique, qui fait que les cordistes ont voulu vraiment dire « bon voilà, maintenant stop, ça suffit ». Il y a eu beaucoup d'accidents mortels, très durs à répertorier. Les cordistes, en ce moment, en répertorient 16 depuis 2011. Ils essayent de recouper les informations, de recouper les témoignages. Et donc, ils ont voulu créer une association qui, depuis, s'appelle l'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires. Et ce procès, le 11 janvier dernier, a permis de rendre physique cette association qui s'est rassemblée, qui a organisé un week-end de rassemblement, qui a suivi le procès. Et il y a beaucoup de chantiers en cours pour faire avancer la profession d'un point de vue de réglementation, d'un point de vue de prévention à la sécurité. Le message, évidemment, c'est que ce genre d'accident ne doit plus jamais arriver, quoi.
Toi, tu vas continuer à suivre ce dossier, si j'ai bien compris. Quelles autres étapes tu attends des suites de Profession Cordiste ?
La prochaine étape donc, de ce reportage, ce sera le 5 avril prochain, puisqu'on a appris que l'accident de Quentin va être jugé également au tribunal correctionnel de Reims. Le problème, c'est que pour l'instant, Cristanol ou Cristal Union n'ont pas été appelés à la barre. Donc, l'avocat de la famille de Quentin va au moins les citer à comparaître. Il n'y a que l'entreprise ETH qui a été qui sera présent en tant que prévenu.
C'est le prestataire donc pour lequel travaillait Quentin.
Voilà, ça s'appelle entreprise de travaux en hauteur. Ouais. Et donc, ce procès devra avoir lieu le 5 avril, pile au moment où il y aura à l'autre bout de la France, presque les championnats de France de cordistes, qui est vraiment la vitrine de la profession, c'est-à-dire que la plupart des sujets qui sont diffusés dans les médias traditionnellement parle de la profession cordiste à travers ces championnats de France qui sont organisés par ce qui était jusqu'alors, qui est toujours l'unique syndicat de la profession, qui est un syndicat composé uniquement de chefs d'entreprise. Donc on en parle dans ce sujet. Et on s'était rendu au dernier championnat de France cordiste. On a pu entendre dans le sujet qu'à l'époque, il n'y avait pas eu dommage pour les cordistes qui étaient décédés. C'était pas l'objet de ce rassemblement. Sauf que cette année, l'association Cordiste en colère aura un stand. Et moi, effectivement, je vais essayer de continuer à travailler sur ce sujet puisque les accidents tout aussi graves, je dis bien tout aussi graves que celui de Quentin, ont continué après, donc celui de Quentin. Il y a eu des accidents mortels à Nice, deux au cours de l'année précédente, à Nîmes également. Et puis, comme je le disais, l'association Cordiste en colère a répertorié en tout depuis 2011 16 accidents mortels répertoriés, c'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir un point de vue exhaustif sur la question, quoi.
Merci à Franck Després pour ce reportage réalisé avec la complicité de France Timmermans. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Even
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.